t'appelles
Diego Movilla.
Movilla. Ouais. Et t'as un léger accent d'origine
espagnole.
Espagnol.
Ouais.
D'accord.
Je suis arrivé en France en 2002, donc voilà.
D'accord.
Il y a longtemps.
Et c'est vachement beau ici. Hein.
Ah oui.
Oh la vache.
Alors c'est pour ça que j'ai mis la petite le petit mot. Le mot sur la
manipulation.
Sur la fenêtre.
Ouais.
Avec une faute d'orthographe.
Ah.
Et ça, c'est toute une série des mots que j'ai fait il y a quelques années, avec à chaque fois une faute, une petite faute.
La manipulation, oui, d'accord.
Qui peut être de l'ombre et de la prononciation, qui peut venir des tas de choses.
D'accord.
Et je trouvais que là, on avait un très beau paysage, que c'était bien de transformer cette fenêtre en tableau, en faire une ombre, en mettant un mot. Encore une fois, qui raconte autre chose, c'est un peu l'histoire de tout mon travail. C'est il y a un langage, il y a un mot, il y a une façon de le prononcer, une façon de l'écrire, mais est-ce que si on l'écrit autrement, est-ce que si on fait une faute, est-ce que ça dénature vraiment le langage? Moi, quand je suis arrivé en France, il y a eu des tas de choses que je trouvais très, très compliquées. C'est une langue qu'on arrive à parler, à comprendre, mais qui est très compliquée à maîtriser, absolument. Et il y a une fierté du français.
Ah bon?
De ce côté-là, oui, je trouve que les Français sont fiers de leur langue.
Enfin, tous les Français ne parlent pas bien français. Non,
après, il y a ça aussi.
On en est loin. Hein.
Mais il y a un côté, il y a une élite.
Et il y a des Christ. Ah bon, tu trouves qu'il y a une élite?
Ouais, je trouve qu'il y a une élite intellectuelle en France, c'est celle qui maîtrise le langage. C'est pour ça que la langue française reste très compliquée.
Ah ouais?
Pour faire une différence entre ceux qui sont instruits
et tu mets qui en cette élite,
les intellectuels, les journalistes, mais les gens de lettres, les gens qui ont fait des études.
D'accord.
Voilà, c'est une façon aussi de dire il y a des catégories. Il y en a, nous on maîtrise la langue, donc on est des vrais français. Il y en a d'autres qui maîtrisent moins bien la langue, donc c'est des français de deuxième catégorie.
Ah, je sais pas si on pense pas tout ça. Hein.
Ah non, mais je dis pas qu'on le pense tous, mais je dis que c'est un fait, ça existe.
Moi je suis poète, je suis écrivain, je suis philosophe. Je me sens pas plus français parce que j'écris mieux le français que les autres. Hein.
Non, mais c'est pas parce qu'on fait partie de ceux qui maîtrisent la langue qu'on est qu'on a forcément du mépris envers les autres.
D'accord.
C'est pas ça ce que je veux dire, mais c'est un fait qui existe. Et c'est ce que
Bourdieu
appelait ça le racisme intellectuel.
D'accord.
Et il a écrit il y a déjà des années, il a écrit autour de cette question.
D'accord.
Il disait qu'il n'y a pas un seul racisme, mais différentes formes de racisme, et que c'est celles qui sont les moins évidentes, qui sont les plus importantes à signaler.
D'accord,
parce qu'on ne les voit pas, mais c'est pour les coups, c'est les plus fortes.
D'accord.
C'est celles qui font vraiment des véritables différences.
D'accord.
Alors lui, il parlait très concrètement des racismes intellectuels en se référant à cette problématique d'une élite qui est formée par des études, par un héritage, par un capital culturel qui a été hérité des titres. Il y a des gens qui appartiennent à la noblesse et tout ça, il faut l'entretenir d'une certaine manière. Et ça génère ce racisme intellectuel. Et puis je pense, bon, ça c'était, après, moi quand j'ai fait une œuvre, je pense pas forcément à tout ça. Mais je pense que des fois on a des intuitions qui font qu'on fait une œuvre et derrière il y a des tas de lectures qu'on peut les rattacher à des lectures qui ont déjà été faites par d'autres. Et c'est ça qui, je trouve, qui est très intéressant dans l'art, c'est que finalement, bon, l'œuvre elle reste ouverte. Et c'est pareil avec les murs que je fais là. Pour moi, au départ, c'était une idée sur la perspective. C'est-à-dire on a quelque chose de plat. Dans la peinture, à la Renaissance, on a monté la perspective. On dit, bon, ce qui est plus loin, ça va être plus petit. Et ce qui est plus proche, plus grand. Ce qui est plus loin, c'est plus flou. On les voit moins bien. Et du coup, j'ai voulu apporter ça sur un mur en parpaing, qui est quelque chose de...
Ah bon, on parlera tout à l'heure devant.
Voilà. D'accord. Oui, on peut en parler. Oui,
et ça, voilà. Ça, c'est aussi de toi, ça?
Ça, c'est à moi, oui.
Et alors, c'est les cartes de France qui ont été chauffées, torturées.
Voilà. Alors ça, je l'appelle la France passée au four. puisque c'est véritablement des cartes d'école et en plastique, je mets au four et je les regarde un peu quand ils commencent à se tordre et à un moment donné, je les sors.
Sympa.
Et ça donne une autre vision de la France.
Passée au four.
Et ça raconte d'autres choses. C'est-à-dire que la France, elle n'est pas forcément telle qu'on nous l'apprend à l'école, mais il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres formes. Et après, on peut voir ça comme une France qui est déformée. Mais on peut le voir aussi comme une France qui, du coup, elle devient belle parce que ça ressemble à des corails, à
ça fait penser, des choses végétales. Il y a très 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 longtemps, à la télévision, dans les années 80, il y a ce que ça s'appelle la France défigurée.
D'accord,
c'est une émission qui parlait de la pollution, de choses comme ça. Ça fait penser à ça, ton truc, la France défigurée.
Je ne connaissais pas cette émission, j'étais pas là encore.
C'était un bout de temps. Hein.
Ouais. Ça fait partie d'une série que j'appelle Objet passé au four. Donc ça, c'est la France passée au four. Après, il y aura toute l'Europe qui passera. Il faut juste trouver les cartes. Mais je fais passer aussi des petits objets publicitaires, les conneries, les gadgets, les goodies. C'est ce qu'on appelle les goodies. Voilà, quand on t'offre un crayon avec les logos et Total, on met au four bio.
Elles sont chouettes, tes France passées.
Oui, après c'est esthétique aussi.
Elles sont belles, hein. Ouais, c'est classe.
Continuons. Tout ça roule. Je viens de te prendre la presse.
Tu t'appelles dans une œuvre.
Ouais.
Alors ça c'est aussi toi. Qu'est-ce que
ça c'est aussi moi. Alors ça c'est un tas de journaux pris dans Saint-Sergent.
Ouais.
Et après, avec un coup de bombe noir, ça c'est ce que j'appelle, c'est des sobres sur les coups comme ça. C'est mon collègue qui travaille avec moi, il dit ça c'est comme une claque en con. T'arrives pas, tu sais pas pourquoi, mais il faut que tu la sortes. Et j'avais tous ces journaux à l'atelier parce que je travaille aussi, je fais de la peinture sur le journal. Et puis à un moment donné, je ne voyais rien d'intéressant. Moi, normalement, je vais à la gare les matins, je regarde la presse quotidienne. Et s'il y a une couverture, une des journaux que je trouve qui peut raconter quelque chose, je l'achète, je l'amène à l'atelier. Après, je fais des peintures. Je reprends des peintures classiques, et il y en a une ici. Et du coup, tout ça, c'était des journaux qui étaient entassés à mon atelier. Et je ne voyais rien d'intéressant à faire avec. Parce que les gens m'amènent des journaux pour... pour la terre si tu veux faire quelque chose avec. Et j'en avais marre, j'ai dit est-ce que je les balance ou pas, puis je dis bah non tiens je vais les mettre comme ça, puis boum, et c'est sorti.
Tu as mis la presse sous presse, c'est ça?
J'ai mis la presse sous presse, et après c'est aussi les poids de la presse quotidienne,
ouais.
C'est quand même un peu, ça a
lourd.
Un certain poids, c'est lourd.
Et ça représente une journée de presse, enfin une matinée, c'est ça?
Ça pourrait être ça, mais finalement non, j'aurais bien aimé que ça soit que ça soit tous les quotidiens européens sur une même journée, mais bon, ça c'est compliqué. Hein. Mais oui, ça pourrait représenter ça, une journée de presse. Une journée de presse. Et les poids de la presse aussi, dans le sens des poids, les poids que ça a dans l'opinion publique, la présence que ça peut avoir, à quel point ça peut être plombant, du coup.
C'est clair.
Et là, ça tombe, elle s'est rejoint, elle pointe vers le haut. Puis il y a un côté aussi construction.
D'accord. C'est rigolo. Et la bande noire, elle signifie...
Je ne sais pas, après il y a des choses, on ne peut pas... On n'explique pas. Je pensais qu'il avait besoin d'autres choses c'est ce qu'elle s'est rejoint des signes, il dessine une espèce
d'accord.
de ligne, et je voulais aussi l'accentuer avec un coup de pompe.
Bien. Ouais. Très bien. Ok. Après on passe au dessin. Donc c'est une série qui est liée par une pensée de l'architecture, en gros.
Oui.
Hein?
Oui, il y avait ça.
Il y a ça, il y a ça.
Alors, l'expo s'appelle Architecture des Gommets.
Ouais.
Donc, c'est une expo qui est structurée autour de tous ces dessins. Ce que moi j'appelle les dégommés, qui sont des dessins que j'ai gommés. Après, j'ai commencé ça il y a quelques années avec des portraits. Et l'idée était de travailler autour du repentir. En peinture, ce qu'on appelle les repentir, c'est. Dans la peinture ancienne, Velázquez notamment, il a beaucoup fait ça, c'est qu'à un moment donné, il changeait complètement une partie du tableau. Et du coup, tu as un cheval qui est dans une position, et il change complètement de position, il repeint par-dessus. Et du coup, on appelle ça un repentir pictural. On le voit aujourd'hui au rayon X, on voit que derrière les peintures de Velázquez notamment, il y en a d'autres peintures, il y a eu différentes étapes. Et je trouvais ça très intéressant, cette idée voilà, qu'on ne fait pas un chef-d'œuvre comme ça d'un coup, et qu'il y a toujours les doutes qui est là. Et les doutes, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai essayé de trouver un moyen de témoigner de ça aujourd'hui. C'est là où je me suis dit, bon, si je fais un dessin, j'essaie de le faire bien, et à un moment donné, je continue à travailler, mais à la gomme, en faisant une espèce de chemin à l'envers. On va jusqu'au bout, et après, on essaie de revenir en arrière, mais on ne peut pas, donc du coup, ça change la donne. On ne peut pas effacer complètement ce qu'on a fait. Il y a toujours une trace. Et je me suis lancé là-dedans avec les portraits. À un moment donné, j'ai regardé un bâtiment, j'ai dit oh, qu'est-ce que c'est lourd ce truc-là, c'est pressant, c'est imposant, il y a un côté autoritaire dans tout ça, très. Voilà, et qui choisit finalement de quel bâtiment, quelle forme, où, comment. Bon. Et bon, bah, tout ça pour revenir au dessin, où j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'effacer un bâtiment pour les redonner une certaine fluidité. Que ça, voilà, que ça soit pas que cette vision très lourde.
Pour nier la lourdeur.
Voilà, pour la nier ou pour la transformer, la modifier.
Ouais.
Et après, derrière, on peut faire des lectures, et chacun, et voilà, il y a qui considère que c'est très apocalyptique, il y en a d'autres qui vont le voir comme une espèce de. Une négation de l'architecture, des trucs anti-architecture. Moi, je ne me pose pas tellement cette question-là. L'idée, c'est je présente des paysages d'architecture et autrement, qui puissent nous permettre de voir les choses autrement.
D'accord. Par exemple, c'est quoi? C'est un dessin?
Alors ça, c'est dans les architectures de Gomez, ça c'est un travail un peu particulier parce que c'est une série d'essais graphiques que j'ai fait à la poudre des gommes, à la poudre des graphites. Donc, du coup, la poudre des graphites, elle n'est pas complètement fixée, mais elle fait apparaître l'image, ce qui me permet de venir dégommer derrière. Donc j'ai une image photographique presque, puisque c'est de la sérigraphie. Donc ça, c'est à partir d'une photo que j'ai travaillée à l'ordinateur pour lui donner une trame. Quand je fais la sérigraphie, je récupère cette image, mais en matière des poudres de graphite. Et ensuite, je peux du coup la dégommer. Une fois que c'est dégommé, je peux le fixer comme je fais avec les dessins. Mais ça permet de faire des séries où j'en ai 60 fois la même image, mais elle est effacée d'une façon différente à chaque fois.
D'accord.
Donc c'est les multiples, mais avec des sortes uniques à chaque fois.
D'accord.
Et ça, c'est juste les étapes un peu intermédiaires où du coup l'image elle commence à apparaître quand je commence à balancer la poudre des graphites. Si je mets partout, bah, l'image elle apparaît complètement. Et là, c'est juste en mettant par certains endroits et je trouve que ça fait des étapes intermédiaires, des petites explosions, des instants. Il y a quelque chose d'assez instantané dans ces trois dessins ici. Ici, dans cette salle, on est dans l'étalement des dessins.
Donc là, c'est pareil, c'est pas des sérigraphies, là.
Non, là, c'est des dessins, voilà.
Des dessins.
Là, c'est ouais. Des vrais dessins qui sont soit au fusain, comme celui-là, ou au crayon de bois, comme...
C'est beau, hein.
C'est beau, voilà. Ça, c'est la cité radieuse de Le Corbusier. Donc, on a dans toute l'expo, il y a un seul dessin des portraits.
C'est Le Corbusier.
Et c'est Le Corbusier.
D'accord. Ton travail, du coup, technique de dégommage, commence avec des portraits, t'as dit,
oui,
ça?
Oui, il y a 4 ans, j'ai commencé avec des portraits. Mais ça, c'est un portrait récent que j'ai fait là exprès pour cette expo.
Ouais, d'accord.
Je me dis qu'à chaque fois que. À chaque fois que je ferai une expo sur les architectures de Gomez, je mettrai un portrait d'architecte de Gomez aussi. Ça, c'est la sérigraphie.
D'accord.
Voilà.
Donc, si j'ai bien compris, parce que je ne connais pas tout en technique, hein, tu fais ça, au départ, c'est une sérigraphie.
Oui.
Et après, tu rajoutes de la poudre de graphite.
Voilà. Bon, pour raconter la technique vraiment et aller dans les secrets d'atelier, en fait, je fais une sérigraphie avec de l'encre transparente.
D'accord.
Et avant que l'encre soit sèche, je mets la poudre de graphite par-dessus. J'enlève les trous de poudre. En fait, la poudre, elle vient s'écoller là où il y avait de l'encre. Et du coup, ça fait avec l'image, mais avec de la poudre et des graphites que je peux effacer derrière.
Et ça, ça évoque aussi le révélateur, quand tu développes tes photos toi-même.
Oui, il y a ça, il y a de ça, il y a un côté magique quand l'image apparaît.
Donc tu imprimes à l'encre transparente.
Ouais.
Ah oui, et après tu balances.
Après je balance la poudre et.
Donc au départ, c'est quand même une photo que tu as faite.
Oui, 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 au départ, c'est une photo que j'ai travaillée à l'ordinateur pour faire une trame. Donc du coup, c'est une photo tramée. On fait un écran de sérigraphie, on passe de l'encre transparente sur le papier, et après, avant que l'encre soit complètement sèche, je rallonge la poudre, et du coup, elle vient se coller.
Et après, tu mets un fixateur.
Après, je travaille à la gomme, et une fois que c'est fini, je mets un fixateur pour que les graphites se fixent, et aussi les traces des bombes
qui restent collées.
Les petites miettes des bombes qui restent collées.
D'accord, très bien.